Chapitre 82. Presque plié en deux, Richard avançait sur le toit de l'immense réseau entièrement constitué de branches et de lianes entrelacées. Par bonheur, la structure était assez solide pour supporter son poids et elle ne craquerait pas sous ses pieds. Mais la bruine la rendait terriblement glissante, surtout aux endroits où de la mousse la recouvrait. Avançant lentement, le sourcier parvint à se rétablir chaque fois qu'il dérapa. Le réseau de tunnels était incroyablement étendu. Très souvent, il débordait du marécage pour aller se perdre dans la forêt. Au cœur de ce labyrinthe, comment localiser Callan? Surtout du premier coup, car le sourcier était certain qu'il n'aurait qu'une chance. Autour de la structure, de grands arbres aux branches lestées de véritables rideaux de mousse émergeaient d'une vase où devaient rôder de monstrueux prédateurs. Par endroits, les tunnels végétaux étaient arrimés à plusieurs de ces arbres, sans doute pour assurer leur stabilité et leur équilibre. Dans ces zones-là, les lianes qui pendaient des branches formaient un voile si dense que Richard eut plusieurs fois utilisé son épée pour se frayer un chemin. Plus loin, il lui fallut quasiment ramper pour passer sous des branches basses. Les toiles de mousse, en revanche, se révélèrent assez faciles à déchirer. Richard aurait aimé progresser plus vite, mais la discrétion était une part essentielle de son plan et elle s'accommodait rarement de la vitesse. Dans le marécage, des cris d'animaux se faisaient écho à l'infini. Baissant les yeux sur la vase, Richard aperçut sous la surface des silhouettes noires qui l'incitèrent à se montrer encore plus prudent. S'il tombait, il aurait peu de chances de s'en sortir vivant. Un peu partout, des aigrettes blanches perchées sur des racines scrutaient l'eau en quête d'un poisson un peu trop téméraire. Mais sous la vase, d'autres prédateurs guettaient les oiseaux eux-mêmes. En chemin, Richard dut soigneusement contourner un gros serpent à anneaux rouges et jaunes qu'il aurait probablement ajouté avec plaisir à son menu. S'immobilisant, le sourcier tendit l'oreille. Au milieu des bruits du marais, il crut entendre des voix psalmodiées. Intrigué, il s'agenouilla et plaqua une main contre la voûte végétale pour assurer son équilibre. Oui, même s'il ne reconnaissait pas les mots, c'était bien une sorte de litanie. Mais d'où venait-elle exactement? De sa vie, il n'avait jamais entendu des sons pareils. Se baissant davantage, Richard vit que des volutes de brume sourdaient du treillis végétal. De la fumée? Dépassant une plaque de mousse, il se pencha encore plus et n'eut plus aucun doute. C'était bien de la fumée, mais pas celle d'un feu normal. Non, et il s'agissait plutôt du résultat de la combustion de certains composants utilisés dans des rituels magiques. Dans l'odeur âcre de cette fumée, le sourcier sentit les relents de puanteur d'une charogne, ou plutôt d'une infinité de charognes. Cependant, il ne trouva pas de cheminée. La fumée s'échappait par les interstices entre les branches, tout simplement. Ici, on entendait plus clairement l'étrange litanie dont il ne comprenait pas un mot. Richard dégaina très lentement son épée. Avec le boucan qu'il faisait, les gens qui s'agitaient sous lui ne pouvaient pas trop l'entendre, mais il ne voulait prendre aucun risque. La note métallique retentit sur un ton si étouffé qu'elle ne risquerait pas de le trahir. Inutile d'être devin pour savoir que ce qui se déroulait dans la structure sous ses pieds n'augurait rien de bon. Après avoir accompli sa mission, Henrik avait été forcé de retourner dans la tanière de Jit, et il en était ressorti couvert de sang. Grâce aux fragments de peau récupérés sous les ongles du gamin, Callan avait elle aussi été attirée dans la trace de Karga, et ce n'était certainement pas parce que Jit voulait la connaître et devenir son amie. Inutile de vivre d'illusions. Un combat à mort attendait le sourcier. La fureur de l'épée vint se mêler à celle de Richard, fou de rage à l'idée que sa femme puisse être prisonnière dans cet enfer. Était-elle même encore vivante? Pour le découvrir, il devait reprendre un peu le contrôle de ses sentiments et passer à l'action. Nietzsche les avait tous prévenus. Contre l'appétit silence, ils étaient désarmés. Donc, inutile de compter sur l'épée de vérité. Ayant déjà vécu des situations où son arme ne lui servait à rien, Richard était bien placé pour prendre au sérieux la mise en garde de Nietzsche. Mais l'avertissement valait pour Jit, pas pour ses complices. Et il semblait y en avoir beaucoup là-dessous. Pour vaincre, il allait falloir compter sur l'effet de surprise, la vitesse d'exécution et une extrême violence. Richard passa l'épée dans le creux de son bras, afin qu'elle entaille légèrement sa chair et boive un peu de son sang. Une goutte de fluide vital coula jusqu'à la pointe de l'arme. « Ma lame ne me trahit pas aujourd'hui. » Conscient que la rapidité serait essentielle, Richard saisit son arme à deux mains, la leva au-dessus de sa tête, puis l'abattit entre ses pieds largement écartés. Tranchant les branches et les lianes, il ne tarda pas à se ménager un passage. Mais il avait fait un boucan d'enfer, d'où la nécessité d'enchaîner au plus vite les actions. Plaquant les poings contre sa poitrine, la lame tenue verticalement, le meilleur moyen de ne pas se blesser en sautant, il se laissa tomber dans l'ouverture et se réceptionna au milieu d'une bande de fous.